La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas.
Donc Matthieu 7, 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande.
Bien, bonjour à tous. Je ne t'ai pas vu, je n'ai pas fait les annonces traditionnelles, donc je vous salue tous et c'est un plaisir d'être ensemble pour ouvrir la parole de Dieu. Une femme avait constaté que sa vue baissait et elle s'est dit « il faut absolument que j'aille finalement chez l'ophtalmologiste parce qu'il faut qu'on me fasse des lunettes pour que je puisse mieux y voir ». Elle prend rendez-vous, elle va à la consultation et lorsqu'elle arrive à cette consultation, elle se dit « tiens, ben, j'aurais dû emmener mon fils ». Alors elle retourne à la maison, elle prend son fils. Un enfant d'une dizaine d'années, et elle retourne, et finalement, comme elle était en avance, ça n'a pas créé de problème, l'ophtalmologiste l'a fait rentrer dans son cabinet de consultation, et il voit qu'il y a deux personnes, alors il lui demande « qui est-ce que je dois examiner, vous ou l'enfant ?» Alors la mère dit « c'est pour moi docteur, parce que j'y vois de moins en moins ». Mais comme je ne sais pas trop lire, alors j'ai porté l'enfant pour qu'il m'aide. Vous comprenez que l'ophtalmo a eu un sourire un petit peu, il est resté un petit peu bête à entendre les paroles de la dame, parce que les lunettes allaient aller plutôt à l'enfant qu'à la mère, si elle s'y prenait comme ça. Et on est devant un cas de ce qu'on appelle l'illettrisme, c'est-à-dire de personnes qui ont su peut-être un petit peu lire, un petit peu écrire, parce qu'il est obligatoire d'aller à l'école en France jusqu'à 16 ans, mais qui ont perdu cette capacité parce qu'ils n'ont pas entretenu les compétences qu'ils avaient acquises à ce moment-là, à un moment de leur jeunesse, et ils se trouvent très embarrassés. Alors, on n'a pas toujours envie de sourire avec les situations qui se présentent pour les personnes qui souffrent de ce mal, et souvent c'est un lourd handicap en ce qui concerne l'adaptation sociale, l'adaptation professionnelle. Ils cherchent toujours à masquer le fait qu'ils ne savent pas ni lire, ni écrire, et compter que très faiblement. Mais je pensais qu'il y avait très peu de personnes dans ce cas-là en France, mais j'ai appris récemment qu'il y avait à peu près 10% de la population française qui était frappée d'illettrisme. Ce qui est beaucoup, ça fait plus de 6 millions de personnes qui... Et donc c'est un vrai problème. Mais je ne vais pas vous parler du problème général de l'illettrisme, vous le comprenez bien. Je vais bifurquer plutôt vers un illettrisme spirituel. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que j'ai l'impression, et en étant animateur de l'école du sabbat, on s'en aperçoit, j'ai l'impression qu'on connaît de moins en moins bien le texte biblique, qu'on connaît de moins en moins bien la parole de Dieu, et qu'on la cite de façon très opportuniste, très vague, souvent, avec des formules du style « il me semble que quelque part dans la Bible on dit que ». Donc, il me semble, je ne suis pas sûr que ce soit dans la Bible, c'est peut-être dans le Parisien. Si c'est dans la Bible, je ne sais pas du tout où c'est. Et je ne sais même pas par rapport à quel contexte, par rapport à quelle situation on a pu dire ces paroles. Et souvent, les paroles qui sont citées, ou les textes, ou les idées qui sont citées, sont parfois justes, hein, mais elles sont difficiles à rapprocher d'un texte réel de la Bible. Et on finit par constater qu'il y a quand même une certaine méconnaissance qui s'est installée, une méconnaissance qui s'est installée lentement dans les textes bibliques. On n'a plus la, la façon de réagir rapide qui est de citer le texte tel qu'il est dans la Bible, même si on ne connaît pas toujours, je dirais, la référence. Et on a étudié récemment Jésus, pendant les tentations, vous voyez qu'il citait des textes bibliques, et la plupart des personnes de cette époque-là, étant donné qu'on n'avait pas la possibilité d'avoir le texte écrit sous la main, la plupart de ces personnes connaissaient par cœur les textes bibliques. Et l'apôtre Paul le fait de façon répétée, et l'apôtre Pierre, toutes ces personnes citent des textes bibliques, mais de façon précise, et on peut retrouver ces textes, quand on regarde l'Ancien Testament, on peut retrouver ces textes, on peut retrouver les références. Donc, on va lire, si vous voulez, un petit texte qui est dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, et c'est le premier verset du chapitre 2. Hébreux, chapitre 2, le premier verset, il nous dit « C'est pourquoi nous devons prêter une plus vive attention à ce que nous avons entendu, de peur d'aller à la dérive. » Nous devons prêter une plus vive attention à ce que nous avons entendu. Alors le texte commence par « c'est pourquoi », c'est-à-dire qu'il fait référence à ce qui est dit avant. Hein, « c'est pourquoi » introduit une espèce de conclusion. On peut dire « donc », voilà ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qui est dit avant? On peut lire le premier verset du chapitre premier. « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos